Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Sixty. Je suis actuellement étudiante et en alternance à Nantes, à la SNCF. Donc voilà, et donc ce soir, je vais vous parler des troubles 10 et aussi de l'association donc, que j'ai créée avec Sandrine Sané, une mère d'une jeune 10. Et donc voilà, avec qui on a créé l'association. J'ai créé cette association parce que moi-même, je suis dyspraxique visio-spatiale et dysgraphique. Donc, c'est un trouble au niveau de la motricité fine et globale et de la visualisation des espaces de son corps par rapport aux objets. Voilà. Et parce que je me suis rendu compte qu'à partir du collège, lycée, les jeunes 10 en ont marre d'être confrontés tout le temps au monde d'adultes, de rencontrer plein d'orthophonistes, de suivre plein de séances. Et ils n'ont envie que d'une chose, d'être normal. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé l'association Dyspower, qui a pour but de faire de son handicap invisible une force, et pour permettre en fait des rencontres une fois par mois entre les jeunes de 11 à 25 ans, pour qu'ils puissent se transmettre entre eux des outils et astuces à mettre en place au quotidien, et aussi rencontrer des professionnels pour travailler sur des thématiques précises, comme par exemple sur la communication verbale, la confiance en soi, avec une coach de vie qui est venue la semaine dernière. Voilà, pas mal de thématiques pour essayer de progresser et d'avoir plus confiance en eux. Et donc, du coup, tous les troubles 10, on va peut-être vous citer tous ces troubles. Il en existe 6. Donc, la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dysphasie et la dyscalculie. Donc, voilà, tous ces troubles ont un point commun, c'est qu'ils rendent difficile l'apprentissage scolaire et aussi le quotidien de tous. Ça va se concrétiser par une frustration en fait permanente de ne pas pouvoir restituer à l'oral ou de façon gestuelle ou à l'écrit ce qu'on pense pour les 10. Par exemple, un dysphasique. Donc, dysphasique, c'est un trouble langage oral. Il va vouloir restituer quelque chose qu'il pense, et en fait il va falloir compter pour nous qui avons des facilités à parler 3 secondes dans notre tête avant de sortir un mot. Voilà des choses comme ça. Et donc tous les 10 ils ont du mal à avoir une vision du temps, de l'heure, des dates. Voilà, ils se perdent souvent un peu dans tout ce qui est temporel. Ils ont aussi beaucoup de problèmes de concentration, d'organisation des pensées, de restitution des pensées. Et donc c'est pourquoi en fait c'est très important qu'ils puissent se retrouver entre eux pour parler un peu de tout ça, de tout ce qui est difficile au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, en France, il existe beaucoup d'associations pour les parents, destinées aux parents, parce que les parents, voilà, sont souvent, quand ils ont un jeune 10, ils sont sur le fait, et ils ne savent pas trop quoi faire, et ils sont parfois assez attristés de ce qu'ont leurs jeunes, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils ont, vraiment. Et donc pour les aider, il y a beaucoup d'associations comme ici à Pédis 49, etc., et qui vont surtout aussi aider dans les démarches administratives, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez compliqué, c'est assez un combat tous les jours, mais on peut y arriver. Et donc la question est donc comment aider son enfant à faire de son handicap une force. C'est vrai que je vais vous dire que c'est assez compliqué en tant que parent d'être le bon porte-parole déjà de ça. C'est assez compliqué en tant que parent de dire « Tu sais, tu peux y arriver quand même, tu peux en faire une force. » Mais en fait, en tant que parent, c'est plus quelque chose de positiver vraiment en disant voilà, c'est vrai que tu as ça, je reconnais que aujourd'hui tu es extrêmement fatigué parce que tu as fourni tellement d'efforts à l'école, etc. C'est pas grave, on va se faire une pause et puis ensemble, après, on arrivera à résoudre ton problème de maths et puis on arrivera à faire ça. C'est vraiment les soutenir, de les aider, et aussi de leur dire que c'est vrai que c'est que un moment, c'est que pendant les études et plus tard, voilà, ils ont juste besoin d'avoir 10 au bac, 10 au brevet pour après être épanouis dans leur vie de quotidienne, dans leur travail, etc. C'est pas c'est vrai que les études, c'est une période compliquée à passer, mais après, voilà, ça sera derrière eux et ils pourront s'épanouir autrement. Peut-être que Sandrine veut nous dire quelque chose en tant que mère.
J'avais envie de rajouter en tant que maman d'une dyslexique qui a eu son bac avec un petit 10 et quelques, qui avait eu son brevet avec un petit 10 et quelques et qui est rentrée à l'ESTUA, donc en études supérieures, et elle ambitionne de faire un master, donc un bac plus 5, d'essayer dyslexique sévère en CP. Comme tous les parents, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai mal fait pour avoir une enfant différente? Mais bon sang, une fois que ça a été passé, je me suis dit, non, mais en fait, je vais arrêter de me plaindre moi, et je vais surtout regarder mon enfant en voyant cette chance qu'il a d'être en vie, de marcher, d'avoir deux yeux, de comprendre, et je l'ai accompagné. Donc je crois qu'en tant que parent, ce que j'ai envie juste de dire, en tant que maman, qui a maintenant une fille de 18 ans, qui est bien dans sa peau, ça n'a pas toujours été facile, c'est qu'à un moment, je me suis dit, bon, ok, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se voiler la face, ce sera plus compliqué, parce qu'un enfant différent, en règle générale, qu'il soit aveugle, sourd, qu'il ait une jambe en moins, ou qu'il soit 10, la vie va être plus compliquée. Okay. Mais je dois le regarder et pas lui transmettre mes angoisses, quand j'en ai, parce que j'en aurai, et j'en ai eu, et j'en ai encore. Je dois surtout, puisque l'enfant, je sais, j'ai compris qu'un enfant nous regarde et qu'il peut lire dans nos yeux, si on est très inquiet, si on ne croit pas en lui. Et un enfant, pour se construire, a juste besoin que son parent ou ses parents croient en lui et lui disent « on va y arriver, tu vas y arriver » et probablement essayer aussi de trouver là où je peux le valoriser. Dire « toi, Constantin, Émilie, eh ben, t'es dyslexique, puis oui, ça va être un peu plus compliqué à l'école, peut-être que même quand tu travailles beaucoup, tu auras tout juste 9,5. Même si je t'aide et que tu as fait un bon devoir à la maison, ben, le jour d'examen, tu n'auras peut-être même pas 10. » Est-ce qu'un jour, on te demandera, quand tu as 40 ans, combien tu as eu à ton examen? Non, mais franchement. Mais on est dans un... En France, en particulier, pour avoir comparé dans d'autres pays en Europe, on est malade du diplôme, on est malade de l'examen, et en fait, on met sur nos enfants une pression à la réussite scolaire. Et on les angoisse. Et non seulement ils ont un parcours qui va être plus compliqué, mais si en plus on est là à douter d'eux et qu'ils sentent qu'on doute d'eux, je pense que c'est pas bien. Donc moi, j'ai juste ce message... Oui, c'est sûr qu'on s'inquiète quand même pour eux. Aura-t-il une place dans notre société? Va-t-il avoir un travail? Voilà, on est quand même, c'est ça. Donc on dit, oh, il ne faut pas louper le coche, il faut qu'il y ait un trophée, et puis il faut qu'il fasse la bonne formation. Et puis, s'il peut avoir son bac, s'il peut avoir, après aller dans le généraliste, voilà, on est là-dedans. Alors, on va se calmer déjà, on va essayer de se dire, notre enfant est en bonne santé. Essayons de lui donner déjà tout pour qu'il se sente bien. Je pense que c'est surtout ça. Qui croit en lui. C'est vraiment une confiance. Et nous, on voit dans l'association, aujourd'hui, on est entre 20 et 30, donc à ces rencontres, une fois par mois, ils sont en règle générale une quinzaine, de 11 à 25 ans. Et on voit ceux qui ont déjà des parents qui savent transmettre « je crois en toi ». Et on distingue ceux qui ont des parents qui sont tellement angoissés, tellement submergés par leurs émotions, finalement, le gamin, l'éponge, est vraiment mal. Et grâce à l'association, je pense qu'il y a aussi une voix dans d'autres qui se sentent bien, ils gagnent en confiance en eux. Et je pense que ça fait partie des choses importantes. De rassurer son enfant, de dédramatiser. Il aura une place, l'enfant, dans la société. C'est surtout ça, mais je sais qu'on a peur. On a vraiment peur de ça.
C'est peut-être aussi donc savoir aussi l'orienter, donc l'encourager. Et puis savoir bien l'orienter, parce que les 10 ont plein de talents à côté, notamment la fibre artistique, tout ce qui va être musique, ceux qui savent pas dessiner, ben, ils savent super bien jouer d'un instrument, les autres, enfin voilà, ça se complète. Au niveau sportif aussi, beaucoup disent qu'on adorait le sport, en fait toutes les activités extrascolaires. Et donc on peut les encourager aussi dans cette voie parce qu'ils peuvent vraiment s'épanouir dans leur domaine et puis être excellents dans d'autres domaines.
Ou pas excellent, je voudrais rassurer aussi sur Sixtine.
Exactement.
On peut tout à fait être un individu standard qui va un peu ça, un peu ci, un peu ça, et qui n'excelle pas particulièrement. Donc le moindre petit truc, il faut quand même, je redis, valoriser son enfant sur des petites victoires. Voilà, et puis c'est surtout ça, l'encourager.
L'encourager. Et aussi, ils auront cette fibre relationnelle assez particulière. Donc voilà, c'est aimer l'autre, aimer la relation aux autres, reconnaître les personnes de confiance, vraiment de potentiellement devenir de bons managers plus tard, parce que savoir un peu déléguer les tâches, savoir faire confiance aux autres, c'est aussi une de leurs belles qualités. Après, ça dépend aussi, chaque 10 est différent, comme tout le monde est différent aussi, c'est important de le préciser. Donc voilà, et donc l'association, oui, elle réunit, on a plus d'une cinquantaine de jeunes, et à chaque fois on a une vingtaine de jeunes qui viennent, et pour vraiment se transmettre des outils, astuces propres aux 10. Beaucoup de parents me demandent, ouais, mais comment faire pour qu'ils puissent réussir, c'est quoi vos outils, si je vous dis, c'est de prendre une lampe tactile, parce que d'expliquer que le bouton c'est trop compliqué à viser pour un dyspraxique, je sais pas si ceux qui n'ont pas ces troubles peuvent comprendre ça ou autre. C'est vraiment entre 10 partager tous ces astuces, le fluo, comment ça peut nous aider à sélectionner les informations, à nous aider à voir mieux les informations sur les pages, ce genre de choses. Après, oui, il y a des outils à côté que je donne aux professeurs, notamment sur les codes couleurs, sur l'organisation de l'espace du jeune, qui est très important aussi, mais voilà. Et on a aussi tout un aspect au niveau des outils technologiques qui aujourd'hui sont très présents et que j'invite vraiment les parents, les jeunes, dites aux jeunes de les utiliser. Il y en a beaucoup qui disaient l'ordinateur. Oui, mais j'ai peur que mon fils il aille sur Facebook au lieu de travailler.
C'est l'ordinateur peut-être aussi.
Voilà, leur faire confiance. Et c'est surtout que c'est des outils vraiment indispensables aux jeunes 10 aujourd'hui. Donc il y en a qui ont cette chance d'avoir ces aménagements dès le fin primaire, même début collège. Avec aussi des logiciels qui sont spécifiques pour les 10, des correcteurs orthographiques assez importants, aussi des outils comme une souris scanneuse, parce que c'est vrai que quand on est en cours, on reçoit plein de feuilles des professeurs, il faut pouvoir noter aussi ce qu'il y a dessus, mais l'avoir sur l'ordinateur. Voilà, c'est plein de choses aussi à côté qui sont importantes et que certains aussi voir auprès des professionnels. On a déjà organisé une rencontre avec APDIS 49 et d'autres professionnels, orthophonistes, etc., ergothérapeutes, pour vraiment montrer que ces outils sont indispensables aujourd'hui pour les 10.
Voilà. Et c'est même aussi pour les, ça, ouais, aussi pour les valoriser, parce qu'ils auront une longueur d'avance par rapport à leurs petits copains qui poursuivront des études. C'est qu'eux seront comme toi très très agiles sur l'outil informatique. Et ça fait une avance, un avantage pour un étudiant quand il a, dès la sixième ou même la seconde, pris l'habitude d'utiliser un ordinateur, de s'organiser sur un ordinateur. Puis on sait tous en tant qu'adultes qu'aujourd'hui, l'outil informatique, quel est le métier où il n'y a pas vraiment besoin d'informatique. Donc ça leur donne cette longueur d'avance.
Oui, c'est vrai que moi, à partir de la seconde, j'ai eu l'ordinateur. Et puis je suis arrivée en licence un peu... la boule au ventre, je me suis dit, je vais encore me faire remarquer avec mon ordinateur, etc. J'arrive au premier cours, tout le monde en ordinateur. Enfin, j'étais quelqu'un avec, comme tout le monde, comme les autres. Et ça m'a, franchement, j'étais enfin épanouie assez. Et puis, arrivée en licence. Donc, voilà. Et donc du coup, on mène aussi pas mal d'actions avec d'autres associations. On a Dessine-moi une étincelle, une association qui aide à tout ce qui va être la reconnaissance des troubles 10 et qui va bien rediriger aussi les personnes qui ont besoin, les jeunes qui ont besoin de dossiers spécifiques. Et puis on mène cette année, on va mener aussi une action en février, à partir du 3 février, 3, 4, 5 février, au point J à Angers, où on organisera des conférences et puis une petite exposition sur l'association et puis sur des planètes qu'on a imaginées entre 10 qui seraient parfaites pour les 10. Voilà,
C'est cette association, comme elle est aux mains de jeunes atteints de troubles 10, c'est aussi une réussite sur d'une idée, on passe à l'action, puisqu'ils ont créé, ils ont créé l'association, ils ont déposé des statuts, et aujourd'hui, toutes les démarches réalisées pour faire organiser l'exposition, c'est un collectif qui réfléchit à comment on peut faire pour attirer des angevins, pour nous faire connaître, et puis au-delà de ça, pour sensibiliser sur les troubles 10. Et donc, c'est la troisième action que tu fais bien et comme on fait ce soir, comme tu as fait tout à l'heure au Crédit Mutuel auprès de salariés, puisque c'était sur la semaine du handicap.
Ouais.
Plus on parlera en fait de ce handicap invisible, plus on dédramatisera et les gens associeront à un comportement ou à un problème qu'ils ont pu constater chez leur enfant ou chez leur collègue. Il faut rappeler qu'on ne guérit pas d'une dyslexie ou d'une dyslexie. On vit avec. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un moment, une expression de ce trouble. Soit on le voit parce que la personne est ultra fatiguée tout le temps, on se dit pourquoi elle est tout le temps fatiguée? Ou alors elle décroche en réunion. Pourquoi elle décroche? Elle n'a pas assez dormi. Non, ça c'est normal en fait. Le trouble commun pour tous ces jeunes atteints de troubles 10, c'est cette fatigabilité exacerbée. Parce que ça leur demande en règle générale de faire comme nous tous tant d'efforts, tant d'énergie. Ils sont à court d'énergie bien avant nous tous. Et en tant que parent, il faut savoir respecter ça. C'est difficile, parce que je me souviens avoir fait travailler les dictées, m'énerver, et on refait. Et de toute façon, la dictée pour un dyslexique, c'est pas possible. Donc ça veut dire que même si on travaille, deux minutes après, on apparaissent de nouvelles fautes, et on finirait pas... s'énerver, perdre patience, et en plus, on s'énerve tellement que l'enfant fatigué, enfin, c'est le cercle infernal. Donc tous ces troubles-là, on les a agis, font que l'individu atteint de ça va contourner, mais pour contourner, on se fatigue plus. Réussir à avoir des magnifiques carrières, parce que je croise énormément d'adultes professionnels qui réussissent des choses extraordinaires, hein, mais qui nous disent mais à quel prix, mais quelle fatigue. Et qui regrettent la méconnaissance des enseignants sur ces troubles, qui déplorent les parents qui s'énervaient et qui nous disaient « tu vas t'asseoir pour apprendre » alors que beaucoup de 10 ont besoin de s'agiter pour apprendre. Alors, nous, on n'est pas Sixtine et moi. Sixtine, elle connaît le problème. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui avait le problème. Moi, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas de connaissances exhaustives sur le sujet. J'ai beaucoup lu, j'ai rencontré surtout beaucoup de parents, j'ai rencontré beaucoup d'enfants aussi. Et je m'intéresse un peu à ça. Ce que je comprends, c'est qu'il y a 6 formes de 10, mais il y a des degrés très différents, que c'est cumulatif aussi.
Oui.
Et que quand on a compris qu'un enfant avait ce trouble-là, il faut être bienveillant à son égard. Quand on a un collègue qui nous en parle, parce que je pense qu'on est dans une époque où les gens vont commencer à en parler, plus le cacher comme à mon époque, donc il faut aussi être compréhensif et indulgent. Et je pense que c'est plus on parlera de ce trouble invisible. Alors, il n'est pas invisible pour les 10 phasiques. Vous avez peut-être rencontré des ça, c'est important.
En fait, c'est un handicap invisible, mais c'est vrai que certaines personnes c'est plus visible que d'autres. Par exemple, si on voit quelqu'un qui est un dyspraxique, ça va être un peu plus visible parce qu'il va faire tomber beaucoup de choses autour de lui. Il va manger très salement, difficulté à s'habiller, mais bon, ça c'est un peu plus intime. Et puis les dysphasiques, au niveau, voilà,
l'expression,
l'élocution, voilà. On va avoir du mal un peu à comprendre ce qu'il dit. Et alors qu'il a envie de dire plein de choses, et plus souvent, c'est encore eux qui sont
Très
sociables, et pourtant le mot but, etc. Donc voilà. Mais pour revenir sur ce que disait un peu Sandrine, c'est vrai que moi je croise des personnes qui me disent « Oui, mais si on lui fait copier sans ligne, il écrira toujours aussi mal. » Bah oui, il est dysgraphique. Il est dysorthographique. C'est qu'un jour, il va bien écrire le mot, le lendemain, il sera mal écrit. Voilà. Parce que c'est vraiment quelque chose de cognitif. Donc c'est vraiment un handicap qui est là tous les jours. Et donc du coup voilà.
Du coup la fatigue s'installe quand
la
on a
fatigue
fait
s'installe quand même. voilà un peu. Et donc oui, par rapport au dysgraphique, c'est-à-dire il va écrire son mot et inconsciemment c'est qu'il va penser à la lettre qui forme et non pas au sens du mot et de la phrase. Donc finalité, il sort du cours, il n'a rien retenu du cours. Voilà, aussi il y a des choses qui se passent et qu'on ne comprend pas forcément parce que c'est inconscient, c'est notre corps qui va faire mal le geste pour les dyspraxiques ou les choses comme ça. Donc c'est aussi ce qu'on essaye de travailler sur des thématiques précises. On a une sophrologue qui est venue pour vraiment faire prendre conscience de la respiration, vraiment enfin lier en fait le corps à l'esprit, à tout. Tout prendre conscience de la personne, de ce qu'on est et pouvoir avancer avec ça et de faire de son handicap invisible une force.